Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans toute une vie, à la découverte de vies en forme de portraits sonores d'hommes et de femmes qui ont marqué leur époque et les suivantes. Peut-on rire avec la Shoah ? Aujourd'hui, on vous raconte celui qui a réinventé le comique du tragique entre l'Allemagne, la Pologne et les États-Unis. Un humour incomparable pour retrouver la complexité du monde après la blessure. Tout de suite, Edgar Ilsenrath nous fait rire avec le pire.
Le matin du 20 avril, je me suis réveillé en nage. J'ai soudain pris conscience que c'était l'anniversaire d'Hitler, le 100e. Je suis sorti du lit en titubant. J'ai pris une douche froide, avalé un petit déjeuner léger et je suis descendu dans la cour où le petit-fils âgé de 5 ans du vieux nazi d'à côté faisait de la trottinette. Je lui ai dit « Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'oncle Adolphe. Il a 100 ans. »« Je sais, » a dit le gamin. « Mon pépé me l'a dit. »« Tu sais ce qu'il a fait, l'oncle Adolphe ?»« Bah oui. »« Alors, qu'est-ce qu'il a fait ?»« Il a construit l'autoroute et gazé les Juifs. » »« Tu sais ce que c'est une autoroute ?»« Bah oui. »« Et tu sais ce que c'est les Juifs ?»« Non. » Mou d'enfant. Voix. Cauchemar. 6 millions de cris qui n'en sont qu'un seul. Mon cri.
Edgar Ilsenrath, Rire tragique. Un documentaire d'Amélie Perrault et François Test. Frédéric Martin, comment parler d'Ilsenrath aux personnes qui ne le connaîtraient absolument pas et qui ne l'auraient jamais lu ?
Ah ben avec un sourire aux lèvres. L'œuvre d'Edgar Ilsenrath, elle commence à être publiée 20-30 ans après le moment où il a écrit ses livres. Et ça a mis énormément de temps pour arriver au niveau d'évidence où on est aujourd'hui, qui est que, en gros, c'est une œuvre qui est dans toutes les bibliographies sur la Shoah et sur l'humour. Alors ça a l'air bizarre d'être à la fois sur ces thématiques-là si opposées, mais oui, c'est un immense écrivain sur quelque chose de tragique et en même temps un immense auteur comique.
Edgar Ilsenrath riait de la mort car il voulait qu'elle nous reste dans la gorge, là précisément où le rire éclate. Écrivain juif de langue allemande, il survit adolescent à la déportation dans un ghetto en Ukraine. Il survit, mais il a dans la tête, disait-il, un grand trou à combler. Alors, il écrit. Il écrit car c'est un soulagement. Il écrit contre l'oubli et il écrit surtout pour que la mémoire reste vivante. Ses livres sont donc tour à tour crus, drôles, poétiques, sales, burlesques, sombres et absurdes. L'homme était petit, gourmand, portait toujours un béret sur la tête et, paraît-il, parlait peu. Mais ses livres sont remplis de ces doubles littéraires. C'est là qu'il faut partir le chercher et rencontrer Ranek, prisonnier du ghetto, dans son livre Nuit, ou la famille Finkelstein, dans Le Nazi et le Barbier. Dans Fuck America, il est Jacob Bronski, écrivain fauché à New York après-guerre. Dans Terminus Berlin, il est Joseph Leschinski, face aux néo-nazis allemands des années 80. Dans les aventures de Ruben Jablonski, il est cet enfant juif, blond aux yeux bleus, jeté dans l'arrivée au pouvoir du fascisme en Allemagne.
Au commencement était la peur, je dis. À vrai dire, c'était chaud et confortable dans le ventre de ma mère. Et pourtant, j'avais peur. Une peur terrible. Ce fut comme si, minuscule embryon déjà, je savais ce qui m'attendait dehors. Comme si je savais que le moment de la naissance est aussi celui d'une condamnation à mort. Je m'agrippais de toutes mes forces au cordon ombilical de ma mère, décidé à ne pas grandir, ni à me laisser expulser vers ce monde-ci. Ma mère devait se douter de quelque chose. Elle gardait ses mains pliées sur son gros ventre, comme si elle voulait qu'on prie ensemble tous les deux. « Dieu qui est bon, » chuchota ma mère, « je voudrais toujours garder mon petit Jacob ainsi, aie pitié de lui. » Il a toujours cette peur étrange, je la ressens physiquement. Ne le fais plus grandir. Laisse-le en moi pour toujours. Je le garderai bien au chaud, je serai bonne avec lui et je le nourrirai de mon sang. Le bon Dieu a-t-il répondu à votre mère ? Je ne sais pas, je dis. mais je sais que ma mère a répondu à sa place. Qu'a-t-elle dit ? Ça ne marchera pas, a-t-elle dit. Aucune mère dans ce monde ne peut garder son enfant pour l'éternité.
Edgar Ilzenrath, en novembre 2018.
Also, ich fange an. Ich heiße Edgar Ilzenrath, nicht?
Allez, je me lance.
Also, ich heiße Edgar Ilzenrath.
Je m'appelle Edgar Ilzenrath.
Und wurde am 2. April 1926 in Leipzig geboren.
Et je suis né le 2 avril 1926 à Leipzig.
Ich habe kaum Erinnerungen an die ersten drei Jahre.
J'ai très peu de souvenirs de mes trois premières années.
Mein Vater war in Leipzig.
Mon père était fourreur à Leipzig.
Im Pelzgeschäft.
Il tenait une boutique juive traditionnelle. Mes grands-parents étaient très religieux. Des juifs orthodoxes. Tandis que mes parents ne l'étaient absolument pas. Ils étaient très modernes. On ne mangeait pas cachère à la maison, même si on respectait les fêtes.
Andrea Lutterwein, vous êtes maître de conférence en études germaniques à la Sorbonne. Vous avez travaillé notamment sur un sujet surprenant, celui du rire dans la mémoire de la Shoah. Ça vous a donc amené à travailler sur Edgar Ilzenrath. Qu'est-ce que vous connaissez de sa vie ?
Alors, Ilzenrath est né en 1926 à Leipzig et il a grandi à Halle, une petite ville à une demi-heure de train de Leipzig. Une ville de petits commerçants où il a plutôt mal vécu l'avènement du nazisme et le devenir de plus en plus radical de la population locale. Il a souffert de pas mal de brimades, des enseignants, des élèves. Il était l'un des rares juifs dans sa classe. Il revient toujours à ces événements, à ces brimades premières qui sont presque plus humiliantes que ce qu'il a vécu, l'horreur absolue qu'il a vécu par la suite. Mais c'est vraiment un point de départ qui l'aura marqué.
Parce que ce sont des brimades qui prennent la forme de jeux d'enfants absolument cruels et de jeux d'enfants tout de même.
Oui, et c'est aussi l'expérience que les adultes ne protègent pas l'enfant parce qu'il avait, il devait avoir 9 ans et l'enseignant était plus antisémite que les enfants. Donc il n'avait plus aucune instance d'autorité qui le protégeait, hormis sa famille évidemment. Il raconte une anecdote où le professeur dessine un cochon au tableau et dit « Ben voilà, les Juifs ne mangent pas de cochon parce qu'ils ne mangent pas leurs congénères. » Et Edgar Ilzenrath, tout naïvement, dit « Mais non, dans ma famille, nous, on mange du porc. » Et le professeur l'a frappé pour ça. Donc il entre très tôt, à 9 ans, dans un monde où les choses sont inversées, les perceptions sont inversées, où il vit ce monde inversé. Et c'est par rapport à ça que va se développer son instinct satirique, qui est presque un instinct de survie dans ces conditions-là.
Les nazis avaient ruiné mon père car les clients ariens avaient peur d'acheter dans son magasin de meubles. Le magasin devait d'ailleurs être arianisé. J'ai appris tout cela en écoutant ce que disaient mes parents quand ils croyaient que nous, les enfants, ne les entendions pas. Mon frère était encore tout petit. Je lui expliquais tout de suite ce que signifiaient les mots « arianisé » et « ruiné ». Le magasin de papa va être arianisé. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. Et qu'est-ce que ça veut dire « ruiné » ? Je ne sais pas exactement non plus. Je crois que ça veut dire que les nazis prennent tout aux juifs, à notre papa aussi, et après il est ruiné. Notre papa est juif ? Bah oui. Moi aussi ? Toi aussi. Est-ce que les nazis vont prendre mon nounours ? Ils le prendront sûrement. Mais il n'a qu'une oreille. Ça ne fait rien.
Frédéric Martin, vous avez édité tous les livres d'Ilzenrath en français, d'abord avec Benoît Viraud et les toutes jeunes éditions Attila, puis avec les éditions du Tripode que vous avez fondées. Frédéric Martin, qu'est-ce qu'Edgar Ilzenrath raconte de son enfance dans ses livres ?
C'est un enfant allemand qui naît dans les années 20 en Allemagne et qui est exfiltré par son père quand ça devient trop compliqué avec le reste de sa famille, donc sa mère et la fratrie, en Roumanie, dans un shtetl, donc une petite communauté juive, où il va passer les plus belles années de sa vie. Le shtetl, c'était vraiment des lieux de vie extrêmement forts, actifs culturellement dans la Mitteleuropa. C'était des foyers de culture, de connaissances et de folie, en fait, je dirais. Et c'est ça qu'on retrouve dans le retour au pays de Yossel Wasserman, c'est qu'il y avait une appétence pour la vie, à la fois pour la chair, la nourriture, il y a des descriptions de plats, enfin, c'est un livre qui donne faim, pour moi en tout cas, et en même temps c'est le théâtre de la vie véritablement, il y a un amour, évidemment que toute cette culture, ces communautés juives dans des villages où il y avait une ferveur religieuse très forte, où il y avait une ferveur culturelle très forte, où il y avait une fraternité, une ferveur communautaire très forte, ça a été complètement balayé, et voilà, au point qu'aujourd'hui, on n'a même plus conscience de cette réalité. Il y a plein de gens, vous dites shtetl, ils ne savent pas ce que c'est. Lui, il a fait cette expérience-là, et dans ce roman-là, je pense qu'il a la tendresse d'un Atlantide, c'est-à-dire, il vous décrit un monde qui a été englouti, et qui en même temps était le paradis, oui, encore une fois.
Nous sommes arrivés en Boukovine en 1938 par une très chaude journée de juillet. Nous portions nos manteaux de fourrure. Nous avions enfilé tout ce que nous pouvions. Après avoir pris un peu d'argent et tous nos bijoux, nous avions réussi à passer la frontière. Mon grand-père était venu nous chercher à la gare en voiture à cheval. On se déplaçait encore comme ça là-bas. Tous les gens nous saluaient sur notre passage. Je me souviens d'être passé devant une maison où un vieux juif priait sur un balcon. Le vieux juif nous a salués et nous a bénis. Je me sentais très bien là-bas, à
Céret.
C'était l'un des plus beaux moments de ma jeunesse. Tous les gens parlaient allemand à Céret, même si c'était un allemand des Balkans. L'allemand était la langue préférée des Boukoviniens. Et c'était surtout les Juifs qui en prenaient soin.
Quand arrive la guerre, c'est un adolescent et il est déporté dans un camp, dans un ghetto en Ukraine. Et là, il va avoir l'horreur, vraiment. Et il va miraculeusement en survivre, lui et toute sa famille.
Il a l'avantage que sa famille a réussi à emmener quelques objets de valeur qu'on peut troquer. Mais il raconte cette survie à plusieurs reprises dans ses romans comme quelque chose qui transforme tout être humain en une bête, qui font qu'il n'arrive plus à se situer dans un système de valeurs. Hein. Ce dont je me souviens, c'est que l'enfant intériorise de plus en plus ce monde inversé, qu'il intériorise de plus en plus la violence au quotidien, le non-droit au quotidien, et cette unique volonté de survivre. Donc vraiment d'intégrer une forme de bestialité. Et ça, il le décrit avec beaucoup de froideur dans Nuit.
À l'asile de Nuit, on en était presque à un mort par semaine. On s'en apercevait à peine car les places libérées étaient aussitôt reprises par des sans-abri. Chaque fois, si tant est qu'elles ne fussent pas complètement déchirées, on se battait comme des chiffonniers pour récupérer les guenilles des morts. Tous voulaient se les approprier, et dès qu'ils repéraient un mort, ils se jetaient sur lui comme une horde de bêtes sauvages. Ici comme partout, seuls les plus rapides, les plus agiles, tiraient leur épingle du jeu et raflaient les habits pour les troquer contre du pain. Hanek ne pratiqua pas longtemps ce sport. La concurrence dans le dortoir était trop grande. Les sempiternelles disputes l'épuisaient. Elles ne rapportaient que des emmerdements. « Trouve-toi un autre champ d'activité, se dit-il. Tente ta chance dans la rue. » et il avait tenté sa chance dans la rue. Pendant quelques jours, il travailla avec un zèle acharné. Il partait dès l'aube, errait dehors, cherchait dans les fossés, dans les fourrés, derrière la maison. C'était toujours plein de morts, eux aussi, déjà dépouillés. Ils gisaient là, nus, tels que Dieu les avait créés, rictus figé et se payant sa tête, l'air de dire qu'il arrivait trop tard.
Frédéric Martin, après la guerre et la libération du ghetto dans lequel il est enfermé par l'armée russe, où est-ce qu'il va, Edgar Ilsenreth ? Qu'est-ce qui se passe pour lui ?
C'est le chaos à ce moment-là dans l'Europe. Il va pérégriner un peu partout. Il va finir par atterrir en Palestine, où il va être assez malheureux. C'est pas un moment de sa vie qu'il aime beaucoup. Il va faire l'expérience des kibbutz. Et finalement, en 49, il finit par rejoindre sa famille, qui, elle, a trouvé refuge à Lyon. Le père a fini par y arriver par ses propres chemins, la mère, le frère aussi. Il les rejoint. C'est un jeune homme. Il a ce trou dans sa tête. Donc il a cette dépression qui le hante. Il veut devenir écrivain. C'est pas un truc qui fait très envie à sa famille, notamment son père. Il s'oppose à ça. En gros, il le fait travailler chez un tailleur et il veut qu'il devienne un bon bourgeois, comme la tradition familiale le veut. Et en fait, on pourrait dire d'une certaine manière que Edgar Ilsenreth est un écrivain français, ou en tout cas, c'est en lisant dans un café de Lyon, je crois que c'était la Comédie, si je me souviens bien, donc dans une des places du centre-ville de Lyon, qu'il lit L'Arc de Triomphe de Remarque, et qu'il a une révélation. Il a enfin trouvé, parce que ça faisait déjà plusieurs années qu'il essayait d'écrire, il n'y arrivait pas, et la lecture de ce texte lui donne la forme, ou l'idée de la forme dans laquelle il va pouvoir écrire son premier roman qui est Nuit. Et donc il commence à écrire ce roman à Lyon, et puis là il finit par émigrer à New York où il rejoint son frère, et c'est finalement à New York que commence sa vraie destinée d'écrivain, et où il va vivre les 20 années suivantes.
Vous savez, je suis allé danser.
Edgar Ilsenreth, en 1994.
Et après, je suis sorti toute seule parce que je ne trouvais pas une fille, une femme.
C'était en France.
C'était en France. Je suis allé dans un bistrot et j'ai demandé le garçon de me donner un crayon et un feuille de papier et j'ai commencé à écrire. C'était le premier chapitre de Nuit.
Donc c'est après avoir dansé que vous avez écrit ce premier chapitre d'un livre donc, qui raconte l'histoire du ghetto de 41 à 44.
Ah, mais ça n'avait rien... Parce que je voulais toujours écrire cette histoire, mais je n'ai jamais osé de commencer. Vous savez, j'avais des dépressions. Je n'avais pas de perspective. Alors je me suis dit, quand je commence à écrire, je vais retrouver mon identité et mes perspectives. Et je vais perdre ces dépressions, peut-être. C'était vrai, parce que quand j'ai fini le premier chapitre, j'avais plus de dépression, j'étais heureux.
Et il va mettre 10 ans pour écrire son premier roman, Nuit, qui est peut-être l'œuvre la plus bouleversante quand même aujourd'hui, en tout cas la plus poignante, parce que par rapport à tout le reste de l'œuvre qui est très humoristique, c'est un compte-rendu quasiment clinique de l'expérience de ce camp, où finalement, il n'y a pas de méchant, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ces juifs... réduits à la plus extrême pauvreté, au plus grand dénuement, à la plus grande violence, sont dans des logiques de survie où chacun devient en fait un ennemi ou une proie. Et donc l'histoire éditoriale d'Edgar Ilsenreth, elle commence avec ce texte qu'il a mis 10 ans à écrire après une grande dépression et tout ce qu'on peut imaginer de difficile dans ce qu'il raconte. Et une histoire éditoriale complètement extravagante parce que l'éditeur allemand qui, à ce moment-là, reçoit le texte et accepte de le publier, va rentrer en opposition avec sa direction commerciale d'une certaine manière. C'est-à-dire que il y a un homme qui prend la décision de le publier en Allemagne, le livre est fabriqué, et à ce moment-là, il est diffusé dans l'ensemble des équipes de la maison d'édition, et le directeur commercial de la maison d'édition, quand il découvre ce texte, a tellement peur, c'est un homme allemand, donc on peut comprendre, on est encore à un moment où la question de la Shoah est très difficile à aborder pour les Allemands, il a peur d'être taxé d'antisémitisme s'il laisse ce texte sortir. Et donc, il saborde la parution du livre. Et donc, on se retrouve dans cette situation paradoxale où un grand témoin écrit un texte extraordinaire et aujourd'hui que tout le monde s'entend pour dire qu'il est fondamental. et il va être empêché de diffusion par la propre maison d'édition qu'il publie pour des raisons inverses, c'est-à-dire la peur d'être taxé d'antisémitisme, parce que ce qu'il décrit est d'une telle crudité et d'une telle violence qu'on n'a pas du tout la figure seulement du juif victime, mais du juif bourreau aussi.
L'éditeur insiste pour que Hilsenrath y ajoute une postface qui attesterait du caractère autobiographique du roman. Et il dit non, c'est un roman. C'est pas comme ça que je l'ai vécu. Les personnages juifs que présente ce roman ne sont pas des personnages juifs qui correspondent au cliché philosémite, c'est-à-dire de la bonne victime, sentimentale, mais qui a un caractère irréprochable, tel qu'elle est présentée dans les paraboles d'après-guerre de beaucoup d'écrivains non-juifs. Et Nuit montre justement que, quelle que soit la personne exposée à ce type de conditions, elle devient une bête. Elle devient inhumaine. Et cette figure de juif inhumain, c'était inadmissible pour la société d'après-guerre. C'était pas recevable.
Il ne pouvait plus rester ici cette nuit. Tout était déjà contaminé. Il devait se trouver une autre place où dormir. Il se retourna encore une fois et revint doucement sur ses pas. « Attends, » dit-il d'une voix rauque. « J'ai un dernier service à te demander. » Nathan ne répondit rien. Hésitant, l'homme fixa les pieds du mort, emmailloté de chaussettes russes tenues par des bouts de ficelle, comme les siens. « C'est de la bonne ficelle. Pas effilochée comme la tienne. Les chiffons ne valent pas grand-chose, mais au moins ils sont secs, ça me fera toujours une paire de rechanges. » Il n'hésita pas longtemps, dénoua les ficelles et les fourra dans sa poche. Puis, il déroula les chiffons autour des pieds rigides aux orteils écartés comme des pattes de corneille, et eux aussi disparurent dans ses poches. Il fit cela sans le moindre scrupule. Nathan avait été son meilleur ami, alors il était naturel qu'il héritât de lui. Avant de partir, il prit le chapeau du mort et le vissa sur sa tête, jetant l'ancien par terre, sans regret. « Désolé Nathan, désolé de piquer aussi ton chapeau, mais le mien prend l'eau. »
Pour moi, Nuit, c'est le roman de la purge où il va aller jusqu'au bout. Et il y a eu des moments extrêmement violents, en fait, où j'étais sur la révision du texte et puis tout d'un coup, je m'apercevais que c'était l'heure du repas et j'avais des nausées. Parce que ça, en fait, c'est un choc. La puissance de Nuit, elle est dans une capacité d'évocation inouïe. Aujourd'hui encore, c'est le seul livre d'Edgar Hilsenrath que je ne conseille pas à la lecture. C'est-à-dire, vous tombez sur ce texte, vous faites votre expérience. Et je pense que vous avez la chance de tomber sur ce texte. Par contre, aller, comme je peux le faire avec n'importe quel autre livre d'Edgar, mettre le livre dans la main en disant « Lis ça, tu vas adorer », c'est pas possible. C'est trop violent. Et donc, par rapport à la question du trou et du traumatisme d'Edgar, je pense qu'il l'a guéri simplement en le mettant à nu. Au lieu de rester la victime, il a regardé en face la mort. Il a regardé en face la violence, y compris sans doute celle de sa famille, dans cette expérience-là, et une fois qu'il a réussi à la regarder dans les yeux, il a pu en rire. Et on arrive tout de suite sur le deuxième roman, qui est le nazi et le barbier.
Il y eut comme un frémissement dans la foule, et d'un seul coup, oui c'est comme ça que ça s'est passé, d'un seul coup quelqu'un a crié, nous avons tous crié, notre main droite, partie dans les airs, toute seule, tous nous crions comme des possédés, nous crions « Amen, Amen, Amen », nous entraînant les uns les autres, ensemble nous hurlions, ensemble, nous nous déchaînions, ensemble nous pleurions, le sauveur, il était là. Quelqu'un dans la foule cria dans un râle, « Mon fureur, donne-moi aussi un bâton, un autre, à moi aussi, donne-moi la foi ». Bientôt, deux cœurs s'étaient formés, un à droite, un autre à gauche. Ceux de gauche criaient « Vois nos derches ensanglantées » et ceux de droite criaient « Fais de nous les vrais maîtres et nous aurons foi en toi ». Savez-vous l'effet que ça fait quand on crache une boule coincée dans la gorge? Et savez-vous l'effet que ça fait des millions de boules recrachées qui s'envolent? Aujourd'hui, je comprends pourquoi les boulettes que nous avions crachées dans le ciel ce jour-là ont porté aussi loin et fini par frapper les innocents. Nous n'avions pas cherché à viser. Nous nous sommes juste raclés la gorge, pensions-nous. À l'époque, je n'ai pas pigé.
Le nazi et le barbier est en fait une réaction, presque une réponse à ce refus du premier roman. Et il va, par cette farce absolument dingue, où un meurtrier de masse va prendre l'identité d'un camarade d'école juif et devenir sa personne et jouer ce rôle tellement à la perfection qu'il s'intègre totalement dans la société israélienne d'après-guerre, en devenant même un citoyen modèle. Ce roman-là répond en quelque sorte au consensus philosémite qui a fait que Nuit n'a pas pu être publié correctement. Évidemment, c'est très très virulent et c'est très satirique, et le fait qu'on lise ce roman parfois avec un rire noir, mais parfois en riant franchement, parce que c'est tellement tordu parfois, fait qu'en Allemagne, on lui a du coup reproché de rendre la Shoah consommable, d'en faire un divertissement. Voilà, de toute façon, il y avait toujours une raison pour le taire.
Ce tortionnaire nazi qui va finir par voler l'identité de son ami juif mort porte un nom dans le roman, Max Schulz, dont on n'entend pas en français la signification. Qu'est-ce qu'on entend en allemand avec le nom de ce personnage ?
Ben, on entend probablement Maximale Schuld, donc la culpabilité ou la faute totale, absolue, maximale.
Nous conduisions une poignée de juifs dans un cimetière pour les fusiller. Mais erreur de cimetière. Il y avait des croix sur les tombes. Les juifs se tenaient debout devant les croix, tremblant comme des feuilles, incapables de pleurer tellement ils avaient la trouille. Et là, sur l'une des croix, la plus simple et la plus petite, était accroché Jésus-Christ, qui chialait, et qui dit à mon lieutenant « Vous m'avez mal compris. Je les ai maudits, d'accord, mais je voulais juste leur faire peur. » pour qu'ils se convertissent. Et le Seigneur Jésus-Christ a continué de chialer sans plus rien dire. Mon lieutenant s'est mis en pétard et a envoyé quelques balles dans le bide du Christ en pleurs. Et le Christ est tombé de sa croix, mais il n'était pas mort. Mon lieutenant s'est alors tourné vers moi et il a dit « Max Schulz, veuillez fermer la gueule à ce faux prophète une fois pour toutes. Vous faites ça mieux que moi. » Et c'est ce que j'ai fait. Une fois que j'ai eu fusillé le Christ, nous avons sorti les Juifs du cimetière chrétien parce que mon lieutenant avait déclaré « Deux précautions valent mieux qu'une ». Et moi j'avais répondu « Oui, c'est ce que disait ma mère, deux précautions valent mieux qu'une ». On sait jamais, avait dit mon lieutenant, ce type-là, ce Jésus-Christ, il a plus d'un tour dans son sac. Il serait bien fichu de ressusciter encore une fois. Badaboum.
C'est tellement poussé, c'est tellement grotesque, mais en même temps, on se rend compte que c'est exactement ça qui s'est passé. C'est, en allemand, on dit « Das Lachen bleibt einem im Halse stecken » ou en yiddish, on peut dire « Lachen mit ja sterk », c'est-à-dire que le rire reste coincé dans la gorge, on rit avec des lézards dans la gorge. Hein. Il y a quelque chose qui est très physique, encore une fois. Hein, c'est pas une mémoire qu'on peut pousser de côté et se dire ben, « j'ai fait mon dû », c'est quelque chose qui vous traverse.
L'ensemble de son œuvre est quasiment une œuvre autobiographique, mais parodique. Évidemment qu'il n'est pas dans la confession, c'est pas Primo Levi. Il aurait hein, le matériau pour être un Primo Levi allemand. Mais en fait, c'est à la fois... J'allais dire un Bukowski, un Buster Keaton. C'est quelqu'un qui joue beaucoup avec sa propre histoire. Et ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il détricote tout ce qu'il a vécu sur un mode parodique qui fait que même par rapport à la culture littéraire allemande, il est très atypique. D'abord, c'est un enfant qui a arrêté l'école très jeune. Alors, je dis pas que tout écrivain allemand qui se respecte doit avoir fait un doctorat. Mais déjà, sur ce registre-là, il est bizarre. Petit 2, Il a passé son adolescence dans un shtetl, donc dans une communauté juive, avec une très forte tradition orale, c'est visible, du conte, de l'histoire. Et c'est un conteur avant tout, Edgar Lisenrat. C'est-à-dire que la part d'oralité dans ses textes, c'est des livres qui sont truffés de dialogues, de personnages comiques. Je pense qu'elle vient de cette expérience-là. Et troisième élément, et c'est peut-être le plus troublant, il ne faut pas oublier que c'est un auteur de langue allemande, où normalement la langue allemande est portée par l'ennemi. Mais lui, ce qui est très particulier, c'est qu'il n'a pas eu une langue allemande qui a été entachée par le discours nazi. Parce qu'en fait, comme la bascule vers la guerre et la répression et la traque des juifs s'est faite dans un pays qui était la Roumanie, sa langue allemande a été préservée d'une certaine manière. Et donc il n'a eu aucune difficulté après-guerre à écrire en langue allemande, parce que finalement, sa langue maternelle était restée intacte. Ça fait une figure qui fait qu'aujourd'hui encore, même pour les Allemands, c'est un auteur qui reste inclassable, voire dérangeant.
Vous savez à quoi ressemble un miroir de poche? Le genre de miroir qui appartient à une dame qui n'en est pas une. Je veux parler d'un miroir de poche comme celui de ma mère, enfoui dans son grand sac à main bon marché. Je l'empruntais parfois, le tenais devant mon visage. Voyez ce que j'ai vu. Une multitude de visages entre les craquelures du verre. Le visage d'un barbier, le visage d'un homme instruit, le visage d'un demi-crétin, le visage d'un poète, le visage d'un pervers, le visage d'un type normal, le visage d'un arien, le visage d'un juif, le visage d'un joueur de foot, et encore d'autres visages. Et surtout quand mes yeux de grenouille commençaient à pleurer, à force de fixer la glace. À ce moment-là, dans le verre filé comme un collant, je voyais une autre foule d'autres visages, des visages d'un navire lointain dont j'ignorais tout, en lignes brisées, des rangées de visages, et un en particulier, un visage bien précis, un visage qui bougeait, qui voulait s'en aller en dansant, qui voulait sortir du rang des rangées de visages, comme s'il n'en faisait pas partie. Ce visage-là, c'était le visage d'un meurtrier. Étrange, le visage de meurtrier, car il semblait aussi porter les traits de tous les mortels créés à son image. J'étais pas sûr de pouvoir me fier au miroir de poche de ma mère qui, après tout, était une pute. Devant le miroir, je me demandais, t'es qui, toi? Comme ma mère l'avait fait. Je voulais en choisir un de ces visages, mais je ne pouvais pas. Il ne voulait rien avoir à faire avec moi. Il me fixait d'un air furieux, étrangement défiguré, parce que je faisais des grimaces en tirant la langue.
Alors, la langue est très, très simple, hein, elle est sans prétention. Il y a très peu de nuances, il y a très peu d'adjectifs, il n'y a pas de jeu de langue, très peu. Hein, c'est des jeux de langue très convenus. C'est quelque chose toujours... En traduction, ça peut peut-être paraître parfois plus intéressant qu'en allemand. Et puis, tout d'un coup, cette écriture qui n'est pas vraiment blanche bascule et tombe dans la satire ou dans l'horreur la plus absolue. Et c'est cette bascule qui finalement fait sa particularité. Et puis, il y a toujours ce mélange de tendresse et d'obscénité, traversé de rire aussi, qui est aussi un mouvement physique, hein, ça ouvre les chakras. Donc il y a un moment, il y a une qualité physique de son écriture que n'a pas une écriture blanche qui resterait en retrait. Et puis, il y a le dialogisme aussi, qui, pour atteindre son public, il reste très simple. Très direct, très compréhensible de tous.
Andrea Lauterwein, c'est aux États-Unis qu'Edgar Ilsenrath a écrit Nuit et le nazi et le barbier, à New York, où il a vécu en exil de 1951 à 1975. Dans Fuck America, il raconte comment il passait des nuits à écrire dans des cafétérias d'immigrés. Puisque pendant très longtemps, ses livres n'avaient pas d'éditeur, de quoi est-ce qu'il vivait aux États-Unis?
Je pense qu'il a effectivement fait toutes sortes de petits boulots. Et il travaille comme serveur, notamment, et il lave des voitures. Mais il n'y a jamais de volonté de créer de la compassion. Il va fausser la mémoire pour dire « j'ai fait ça parce que... » Je voulais voir l'Amérique d'en bas, depuis la perspective de ceux qui sont écrasés. Je voulais voir, en allemand, die Frosch Perspektive, la perspective du crapaud.
Edgar Ilsenrath.
On n'avait pas une chance de faire quelque chose en France, vraiment sérieusement. Je ne pouvais pas aller à l'école non plus. Alors, on est allé en Amérique parce que la famille voulait s'installer là-bas. Mais moi, j'étais jamais heureux en Amérique, parce que j'étais aussi, vous savez, un outsider là-bas. J'ai découvert qu'il me faut vivre dans un pays où je ne peux pas la langue, dans laquelle j'écrivais.
Qu'est-ce que vous faisiez comme métier ?
Rien, j'ai travaillé, j'avais des jobs, de petits boulots. Ouais.
Et en fait, l'essentiel, c'était quand même l'écriture ?
L'écriture, c'est tout. Ouais.
Je pense que la société américaine n'intéressait pas du tout Edgar Lindrat dans son matérialisme, dans son consumérisme. Dans son rapport à l'amour, c'était un cœur d'artichaut, je pense, Edgar. Il était très tendre et la compétition sociale, le self-made man, toute la mythologie consumériste américaine était quelque chose qui choquait sa culture, qui était celle justement des Shtetl, qui était celle de la culture, qui était celle du partage, qui était celle de la communauté. Et Fuck America, c'est un livre qui est jubilatoire parce qu'il est intelligent. Il démonte la société américaine par le rire plutôt que par l'opprobre et la caricature.
Au bout de deux semaines, les 47 balles avaient fondu comme peau de chagrin. Et pourtant, j'étais content car je venais de terminer le quatrième chapitre de mon œuvre monumentale, Le Branleur. J'avais relu encore une fois ces quatre chapitres, rayé des choses ici ou là, modifié pas mal de trucs, et puis j'avais écrit au crayon les mots « chapitre 5 » sur une feuille vierge. Je me souviens, au moment où j'allais écrire les mots « chapitre 5 », j'aperçus un gros cafard marron sur la feuille blanche. D'une pichenette, je l'expédiais sous la table. Ensuite, je me suis dépêché d'écrire « chapitre 5 », j'ai mis le papier et le crayon dans ma poche, je me suis levé, j'ai donné mon ticket pour le repas à la caisse, payé et quitté la cafétéria. Dehors tombait une brune fine. C'était juste avant l'aube, et derrière Central Park, à l'est, le ciel était blafard. Je me baladais tranquillement sur Broadway en sifflant. Dans la rue, pas âme qui vive, j'avançais lentement sans me soucier de la bruine. Je me sentais comme lessivé, exténué par l'écriture, mais en même temps étrangement heureux et libéré. Il me semblait entendre mon sang couler dans mes veines comme si mon corps possédait une autre voix, celle qui ne me parlait que quand j'avais l'esprit libre, suffisamment libre pour lui prêter l'oreille. En marchant, j'ai remarqué que j'avais la trique. Et j'ai mis la main dans ma poche en repoussant la feuille et le crayon. Bronski, je me suis dit, inutile de jouer avec ta bite en marchant, tu as déjà beaucoup écrit, nuit après nuit, à la cafétéria, à la table du fond, une fois les immigrants partis devant ta bouillie et ton café, économe, assidu, déterminé. Tu as veillé des nuits entières, seul, plongé dans tes pensées, mais maintenant tu as besoin d'une femme, puis encore un jeune homme. Et l'homme ne vit pas que de pain, enfin de bouillie, de café et d'un trou dans la mémoire à combler.
Il avait un côté de roupie parfois quand il parlait. C'est-à-dire qu'il avait des bajoux qui tombaient. Et je le vois avec son œil un peu larmoyant, mais parce qu'il était vieux, hein, c'est pas qu'il pleurait. Mais l'ensemble faisait quand même quelque chose de très droupi. Et il expliquait que, voilà, dans les années 50, quand vous étiez aux États-Unis, à New York, bah le critère de séduction, c'était quand même la réussite financière. Et donc, si vous n'aviez pas un copain, vous n'étiez pas un homme. Et donc, il vous raconte ça très sérieusement en disant, ben voilà, pour avoir une femme, il fallait avoir de l'argent. Et même pour avoir une pute, il fallait avoir 10 dollars. Et moi, 10 dollars, je ne les avais pas. Et quand il arrive sur le mot « pas », il vous regarde fixement et vous voyez dans son regard les années de solitude remonter à la surface.
Andrea Lauterwein, dans son écriture, Edgar Ilsenrath accorde une place très importante et souvent très particulière à la sexualité et aux femmes. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette place de la sexualité, de l'obscène, souvent, dans son écriture ?
Je pense que le fait qu'il ait passé le plus clair de son adolescence au ghetto va forcément porter atteinte au développement de sa sexualité. Donc elle est en quelque sorte mise en réserve. Et l'utilisation irrévérencieuse, et je pense qu'il en rajoute énormément, hein. Si on lit ses romans, on a l'impression que c'est un gars qui passe le plus clair de son temps chez les putes, alors qu'il était plutôt... Il était très dépendant des femmes. Et je pense que s'il n'y avait pas eu les femmes, il aurait été perdu, parce qu'elles le maternaient complètement. Il était toujours très bien entouré. Mais je pense qu'il y a une fixation... Une fascination de sa part pour le sexe qui est un peu régressive, hein, faut bien le dire. Il y a quelque chose de l'ordre du tunnel du temps. Parce que c'est arrivé à ce moment-là où il a été privé d'un développement paisible. Et puis, je pense qu'il y a aussi une volonté de provocation, parce que inscrire le sexe dans un sujet aussi grave que la Shoah, c'est évidemment totalement... Et en plus de ça, inscrire un sexe heureux, hein, c'est pas du tout quelque chose de malheureux. C'est toujours jouissif et joyeux et tendre. Il y a rarement des scènes glauques.
Vous connaissez Kriemhild, comtesse von Hohenhausen? Permettez-moi de vous la présenter. Imaginez, une soirée de trafiquants du marché noir dans une boîte de nuit berlinoise. Au sous-sol, ça va sans dire. Lumière tamisée, bougie. À l'arrière-plan, musique tzigane, russe, roumaine, hongroise et même juive. Fumée, musique, champagne et la comtesse. Regardez-la bien, monsieur Finkelstein, me dit mon voisin de table. Qu'est-ce que vous voyez? Une grande blonde, c'est tout? Vous ne voyez pas que c'est une sacrée vicieuse? Non, pas du tout. Regardez ses yeux, vous ne voyez rien? Non, rien? Tout y est pourtant, dit mon voisin de table. Des esclaves noirs qui pleurent, qui rient, des cravages, des sabots de cheval, du sang, des draps de lin piquetés de rouge, des coussins bariolés trempés de sueur, un arrière-train ou un fessier ou une croupe, ou un bas du dos ou un postérieur ou un pétard, popotin, rectum, anus, cul à la chair la plus tendre et la peau de pêche, dominici creatio magnifica, empalé sur quelque chose de viril tout en air, un champignon turgescent, une grenouille gluante, quelque chose d'aveugle, de ferme sur ses intentions, criant sans bruit, quelque chose de circoncis. Une telle union rend hilar, fait gémir et crier, bien qu'il n'y ait que les anges pour entendre. Ne voyez-vous pas, monsieur Finkelstein, ces mouvements volutes, cette langue humide au milieu de longues jambes de femmes, plumées lisses d'origine contrôlée, friables comme les pattes d'un poulet, et puis la nuque de taureau du mâle, l'inextricable entortillement, ces jambes que la langue fait rire, ces jambes prêtes à briser la nuque du mâle, la chair la plus tendre et la peau de pêche qui lui suce des os, la substantifique moelle, ses os. Dernier d'une longue chaîne millénaire, une chaîne aux anneaux usés, souillés de crachats. Là, le lit muet et patient, le ciel étoilé derrière la vitre. Ne voyez-vous pas le rosaire, la Torah, le Christ sans croix, le Christ libéré, nu, le membre dressé, le Christ découvrant la chair? Je dis, nom de Dieu, j'ai jamais entendu un tel délire.
Andrea Lauterwein, en 1975, Edgar Ilsenrath décide, à la stupéfaction de la plupart de ses proches, de retourner malgré tout en Allemagne. À ce moment-là, ses livres, Nuit et Le Nazi et le Barbier, se sont vendus à des centaines de milliers d'exemplaires aux États-Unis, mais en Allemagne, ils n'ont toujours pas trouvé d'éditeur. Ce sera le cas seulement quelques années plus tard. Pourquoi est-ce qu'il rentre en 1975 ?
Alors il dit qu'il veut retourner, il le confie à une prostituée, il dit qu'il veut retourner voir son amante, qui est la langue allemande. Et je pense aussi qu'il avait besoin de confronter sa mémoire plus directement à cette population, d'aller voir sur place. Et puis il avait manifestement un problème avec les États-Unis, dans lesquels il dit qu'il n'a jamais trouvé d'amoureuse et que les femmes étaient trop chères, etc.
L'histoire d'Edgar Ilsenrath en Allemagne, c'est en fait finalement l'histoire d'une polémique qui paradoxalement va lui amener un succès, mais qui va se faire sur « vous ne pouvez pas dire ça, monsieur Ilsenrath, vous ne pouvez pas écrire comme ça sur la Shoah ». Et donc il devient un peu un écrivain sulfureux, et par le sujet, et par son pédigré aussi, parce qu'encore une fois, il n'a pas un discours théorique sur son œuvre. C'est une force sauvage, c'est un conteur, c'est pas un théoricien de la littérature. Et donc ses premières années en Allemagne vont être des années où il est invité sur des plateaux pour créer un peu du remue-ménage. Et comme il reste en colère à ce moment-là, comme il reste un homme blessé par ce qu'il a vécu pendant la guerre, blessé par son exil américain, blessé par ce qu'il retrouve en Allemagne, il est à ce moment-là très virulent. C'est l'époque où il a une grande moustache, il a un côté un peu offensif, un peu agressif. Et c'est que dans les années 80, encore une fois, qu'on sent qu'il bascule vers autre chose et vers un plus grand apaisement.
Dans les années 80, Andrea Lauterwein, Edgar Ilsenrath vit donc à Berlin. Et c'est là qu'il va entreprendre l'écriture d'un roman, d'une grande fresque, sur une histoire qu'il n'a cette fois pas connue lui-même, celle du génocide des Arméniens. Il va passer des mois à se documenter au milieu des archives pour reconstituer la vie dans les villages arméniens avant le génocide. Ce livre, qui s'appelle « Le conte de la dernière pensée », lui vaudra une reconnaissance immense en Arménie. Pourquoi, à ce moment-là, est-ce qu'il s'est intéressé à une autre histoire que la sienne ?
Je pense qu'il a... Alors, il a commencé à écrire ce livre au moment où les débats d'historiens discutaient de la singularité de la Shoah. Donc, c'est aussi une manière d'affirmer, non pas que la Shoah n'est pas singulière, mais qu'il y a eu d'autres situations qui ont préparé à la Shoah, d'autres situations où la mémoire a été effacée. Et en allant chercher du côté d'un autre génocide, Ilsenrath montre que le plus important, ce n'est pas finalement de démontrer la singularité, mais de témoigner.
Il était près de midi, Tovmar Ratisian. Par les yeux de ta mère, tu regardais la longue file de femmes, d'enfants et de vieillards, et tu te demandais « Mais où vont donc tous ces drôles de gens ? Comment se fait-il que le soleil brille alors que personne ne rit ? Pourquoi fait-il si chaud ? Et pourquoi ces gens vont-ils pieds nus ? Pourquoi ne trouve-t-on d'eau nulle part ? Et pourquoi ces abtiers ne cessent-ils de frapper ces gens qui ne se défendent même pas ? Trouve-t-il qu'ils n'avancent pas assez vite ? Et pourquoi avanceraient-ils plus vite, puisque de toute façon on les fait marcher en rond ? Et pourquoi ma mère s'arrête-t-elle subitement ? Et pourquoi tombe-t-elle à genoux ? Prends garde, mère, sois prudente, car tu pourrais me perdre de vue. » Lorsque ta mère s'effondra et se roula par terre en criant, lorsqu'elle comprit soudain qu'elle allait mettre son enfant au monde là, sur la grande route, elle se libéra en un ultime effort de son pantalon bouffant, se coucha sur le dos, resta couchée dans la poussière de la route, écarta les jambes, étendit les pieds vers le soleil et le ciel.
Il y avait des milliers de livres sur les Juifs, sur l'Holocauste juif, mais il n'y avait rien sur les Arméniens. On me demande souvent pourquoi j'ai écrit ce livre. C'est la raison la plus importante, c'était parce qu'on a oublié les Arméniens. Les Arméniens étaient massacrés pendant la Première Guerre mondiale, et cet Holocauste est tout à fait oublié. Et c'est pour ça que j'écris ce livre, pour faire revivre cet événement. On ne peut pas les laisser mourir une deuxième fois. Le Holocauste arménien était même plus cruel que le Holocauste des Juifs, parce que les Turcs n'ont pas eu les moyens techniques comme les nazis. Les Turcs ont massacré les Arméniens à la manière d'un boucher. Et je me suis dit, je ne peux pas décrire quelque chose comme ça dans une façon réaliste. C'est plutôt dans un conte. Je voulais qu'on puisse le lire. Et dans un conte, c'est facile à lire. Dans une description réalistique, on ne peut pas le lire. C'est pour ça.
Dans le conte de la dernière pensée, on retrouve deux choses fondamentales chez Edgar Ilsenrath. D'abord, le souci de reconstituer les vies quotidiennes, individuelles, dans l'histoire, les mariages, la nourriture, etc. Ouais. Et en même temps, sur ce motif du conte.
Le conte, c'est l'arme absolue pour désamorcer. Voilà, le pouvoir de la raison. Et il y a des choses qui sont grotesques, qui sont absurdes. Il y a des dialogues, par exemple, avec des militaires allemands ou des gens qui sont des sales types, et qu'on voit soudain coup dans ce roman pris dans des discussions d'une trivialité qui semble complètement incongrue par rapport à l'idée de départ, qui est de témoigner de la tragédie qu'ont vécu les Arméniens. Mais en fait, c'est absolument nécessaire, cette trivialité-là, ce goût de l'anecdote, ce goût pour des détails très concrets de ce que pouvait être la vie paysanne des Arméniens au début du XXe siècle, parce que c'est quelque chose qui déjoue le logos, qui crédibilise la puissance du roman. Edgar, la littérature, c'est une expérience de pensée. Il imagine le génocide arménien, par la vérité d'un quotidien, parce que si il se met sur le plan du discours, de la dénonciation, il utilise les mêmes outils que ceux qui ont produit ce génocide. Et l'écrivain, c'est celui qui a le courage de dire « ben moi, je ne vais pas faire du discours. Moi, ce que je crois, je vais le mettre dans la réalité d'un personnage et je vais lui faire vivre des choses. » Et parfois, on sera dans des chiottes, parfois on sera dans une scène de baise, mais si mon discours ne tient pas la route sur une expérience réelle, triviale, c'est qu'en fait, c'est un rideau de fumée, c'est du vent.
Le grand massacre, dit le conteur. Chacun dans ce pays savait qu'il viendrait. Mais quelques-uns seulement pouvaient se le représenter concrètement. Comment les Turcs allaient-ils s'y prendre pour en finir avec les Arméniens? Allaient-ils tous les égorger comme on égorge les moutons? Et cela sous les yeux du monde civilisé? Qui aiderait les Arméniens? Le Kaiser Guillaume II qui avait peur de faire la moindre chose qui pût contrarier ses alliés turcs? Ou le Kaiser François-Joseph qui était vieux et avait des difficultés pour pisser? Les Russes pouvaient-ils aider, ou les Anglais, ou les Français? Ou bien cela ne donnerait-il lieu qu'à un cri d'indignation de la presse mondiale qui finirait aussitôt après dans la poubelle des vieux journaux? Mais crois-moi, peu importe ce qui va nous tomber dessus, les historiens se frotteront les mains parce qu'ils ont besoin d'un sujet nouveau pour mettre un terme provisoire à leur ennui. Vu leur manque d'imagination, ils courront après des chiffres et ils courront après des mots pour désigner le grand massacre et le classer selon quelque ordre pédantesque. Ils ne savent pas que chaque homme est unique et que même l'idiot du village de ton père a le droit de porter un nom. Ils appelleront le grand massacre « extermination d'un peuple » ou « extermination de masse ». Et les plus savants d'entre eux diront que cela s'appelle un génocide. Il se trouvera bien un gros malin pour dire que cela s'appelle un arménocide. Et le dernier idiot spécialisé compulsera les dictionnaires et affirmera pour finir que cela s'appelle un holocauste.
Quand est-ce que Edgar Ilsenrath, Frédéric Martin, a considéré que son œuvre était close ?
Terminus Berlin, c'est en 2006. Voilà. Et Terminus Berlin, c'est le dernier livre qu'il voit publié en estimant que c'est fini. Et donc 2006, oui, les 12 dernières années de sa vie, puisqu'il meurt en 2018, il n'a plus rien à dire. C'est-à-dire qu'il avait toujours la tentation, à chaque question, de dire... Bah, lisez mes livres, ce que j'avais à dire, je l'ai écrit et je sais que j'ai plus rien à dire. Et ça aussi, c'est très beau, je crois, de savoir s'arrêter. Lui savait qu'il avait terminé son œuvre.
Andrea Lutterwein, quel statut a-t-il aujourd'hui en Allemagne, Edgar Ilsenrath ? On a beaucoup parlé de ses difficultés de publication. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est différent ?
Alors, en France, Ilsenrath est devenu, pour ainsi dire, un écrivain culte. Grâce au travail du Tripode aussi, et de ses différents traducteurs, qui ont fait un travail extraordinaire. Mais en Allemagne, je dirais qu'il est resté quand même assez confidentiel. Il a beaucoup souffert, en fait, de ce manque de reconnaissance en Allemagne. Il a reçu un demi-prix Dublin. Il a reçu le docteur honoris causa de l'université d'Erevan.
En Arménie, mais...
En Allemagne, il y a eu quelques petits prix. Il aurait voulu avoir le prix Büchner. Ça, c'était important pour lui d'avoir cette reconnaissance littéraire. Mais je pense qu'il avait une écriture à première vue trop universelle pour être considéré comme un grand écrivain en Allemagne.
Mais c'est vrai que c'est étonnant parce qu'aujourd'hui, ses livres sont traduits dans, je ne sais plus, 18 langues, 20 langues. Ils sont vendus à des millions d'exemplaires à travers le monde. Il y a des universités dans lesquelles on l'étudie. Il est joué au théâtre. Mmh. C'est comme si en Allemagne, dans le pays dans lequel il est né et le pays de la langue dans laquelle il écrit, il y avait encore aujourd'hui quelque chose qui résistait.
Oui, je pense qu'en Allemagne, le mode de réception de la Shoah est resté très ancré dans des formes poétiques. Plutôt hermétique. Ce qui est aussi... ce qui pose question, puisque ça permet aussi de lire un texte sans pouvoir l'entendre réellement, le lire sur une base grammaticale. Alors que Ilsenrath, c'est tellement direct et tellement inclusif qu'on ne peut pas passer à côté de la mémoire. Et je pense que c'est peut-être aussi l'une des raisons.
Le porteur d'eau était monté le dernier dans le wagon. Mais quand il y a un dernier, il y a aussi un premier. Le premier était le rabbin. Il avait précédé le peuple, bien sûr avec sa femme et ses cinq filles qui étaient là, elles aussi. Quand le train avait démarré, les gens avaient fait respectueusement place au rabbin. Ils l'avaient poussé vers la fenêtre. Une ouverture étroite, garnie de fils barbelés, parce qu'ils se disaient « c'est la meilleure place du wagon ». Par la fenêtre grillagée, il peut voir la neige qui tombe dehors et aussi le ciel, et il entendra chuchoter le vent qui accompagne le train. Et le vent, dehors, chuchota quelque chose à l'oreille du rabbin. Et le rabbin hocha la tête et dit « Oui, tu as parfaitement raison, les goys sont stupides. En ce moment, ils pillent nos maisons et ils creusent le sol de nos jardins. Ils croient que nous avons laissé là-bas tout ce que nous possédions et ils rient dans leur barbe. Mais ils ne savent pas que nous avons emporté le meilleur. » « Et c'est quoi le meilleur ?» demanda le vent. Et le rabbin dit, « Notre histoire, elle, nous l'avons emportée avec nous. » Et le rabbin réfléchit et se dit, « Nous ne devons en aucun cas la trimballer avec nous, car si les goys nous mettent dans des fours, il y a bien des bruits qui courent là-dessus. Notre histoire pourrait brûler avec nous. Mieux vaut que nous la cachions sur le toit du wagon. Là, elle est proche de nous, et en même temps assez loin pour que les goys ne la trouvent pas. » Non. Aucun goy n'est assez malin pour imaginer que l'histoire des Juifs de Podna et le souvenir de leur existence puissent se trouver sur le toit d'un wagon de marchandises. Et tiens, à peine le rabbin avait-il formulé jusqu'au bout sa pensée que l'histoire des Juifs du Shtetl se glissa hors des wagons mal aérés et se blottit sur le toit du train. Sur quel wagon? Eh bien, sur le dernier, naturellement.
C'était Edgar Ilzenrath, Rire tragique. Avec Andrea Lauterwein et Frédéric Martin. Merci à Colette Kerber et Uri Varjabedian. Lecture des textes extraits de l'œuvre d'Edgar Ilzenrath par Daniel Königsberg avec une prise de son d'Élise Leu. Archive INA, extrait d'émissions de France Culture en 1994 et 2018. Attaché d'émission Sylvia Favre, coordination Anaïs Quien. Un documentaire d'Amélie Perrault et François Test.
Une vie, une émission proposée par Anaïs Quien avec Sylvia Favre. Podcast, réécoute, bonus, à retrouver sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr.